Et encore une fois, la plus belle année sur Radio Shalom. Salut.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Que ce soit pour votre mutuelle santé, votre auto, votre assurance commerce, votre assurance professionnelle, votre décennale ou tout simplement pour votre habitation, l'assurance comparateur depuis plus de 19 ans vous propose les meilleurs contrats adaptés à votre situation et en plus aux meilleurs tarifs. Sans perdre de temps sur des sites internet à chercher le moins cher, appelez-nous tout simplement et nous trouverons pour vous la meilleure offre. Vous nous téléphonez au 01 46 59 22 28, 01 46 59 22 28, toutes nos adresses sur www.l'assurance.fr, l'assurance s'écrit avec un S à la fin. À tout de suite pour de sacrées économies.
Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88.
Le mémorial de la Shoah, le plus grand centre d'archives en Europe, préserve et transmet les archives de la Shoah depuis plus de 70 ans. Parce que chaque document est une histoire, venez déposer vos archives personnelles concernant la Seconde Guerre mondiale en France, en Europe et en Afrique du Nord au centre de documentation du mémorial de la Shoah. Tout au long de l'année, le mémorial de la Shoah collecte des milliers de documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale grâce à vous. Les équipes du Mémorial de la Shoah vous accueillent en particulier tous les mardis au 17 rue Geoffroy Lanier à Paris dans le 4e arrondissement. Plus de précisions au 01 42 77 44 72. 01 42 77 44 72. Le Mémorial de la Shoah, parce que chaque document est une histoire.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Et sur Radio Shalom, il est 20h, passé de 2 minutes.
Radio Shalom, le Flash Info, vous est présenté par Pierre Gondus.
Bonsoir. En ce premier jour de l'année 2025, les Israéliens découvrent l'ampleur des augmentations qui vont impacter de façon dramatique leur pouvoir d'achat. La mesure phare est le passage de la TVA de 17 à 18%, une hausse qui devrait coûter entre 8 000 et 12 000 shekels par an aux foyers israéliens. Les négociations entre le Hamas et Israël concernant les otages ont atteint une impasse, selon des médiateurs arabes cités par le Wall Street Journal. Ces derniers estiment qu'un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages est peu probable avant la fin du mandat du président américain Joe Biden. De son côté, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a commenté les négociations entre Israël et le Hamas concernant les otages, affirmant qu'il ferait mieux d'être libéré très bientôt. Demain, jeudi, une réunion ministérielle présidée par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, abordera notamment l'après-guerre et la création d'une alternative gouvernementale au Hamas. Sur le terrain, les soldats israéliens de la brigade Kiryati ont localisé et détruit un complexe de fabrication de roquettes et d'armement dans le nord de Rafiar, contenant des roquettes à moyenne et longue portée. L'armée israélienne qui a décrit pour la première fois l'opération de l'unité Shalgad en Syrie en septembre dernier, qui a déjà été rapportée par plusieurs médias étrangers au cours de laquelle une installation de production de missiles iraniens utilisée par le Hezbollah a été détruite à Massiyaf dans la province de Hama. C'est en Syrie, il s'agit de l'une des opérations commando les plus dangereuses et courageuses que l'armée israélienne ait menée ces dernières années hors des frontières. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs responsables israéliens. Une attaque à la voiture Bélier a fait au moins 10 morts et 35 blessés dans le quartier historique de la Nouvelle-Orléans. Lors des célébrations du Nouvel An, les faits se sont déroulés vers 3h15 ce matin, lorsqu'un pick-up a délibérément foncé dans la foule qui célébrait la nouvelle année sur Bourbon Street dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Et puis dans ses vœux aux Français, Emmanuel Macron Macron admet les ratés de la dissolution et ouvre la voie à des référendums en 2025.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Retour dans l'émission Mémoire Vigilance en compagnie du philosophe Gilles Lanus pour son beau livre Une langue unique, Rousseau, Babel et la civilisation, publié chez Eliot. Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop, si tu veux, parce que cet ouvrage est très très riche et il y a beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire. Peut-être allons-nous à l'essentiel. À l'essentiel, c'est, j'en parlais en préambule de l'émission, c'est-à-dire cette notion de retournement, parce que tu dis très bien la chose suivante. Tel est le paradoxe de la civilisation chez Rousseau. Partie pour aboutir à l'humanité de l'homme, elle produit son abaissement, son affaissement, expression de l'humaine perfectibilité. Elle est trop souvent factrice d'imperfection, là même où l'homme s'élève, là il choit, oubliant ce qu'il fut et ce qu'il recherchait. C'est fondamental aujourd'hui et c'est pour ça que je suis heureux de t'avoir dans cette émission, parce que ça élève un petit peu le débat, parce que effectivement aujourd'hui, nous assistons à cette chute. Nous assistons à cette chute, alors que, en réalité, la technologie, encore une fois, n'a jamais été aussi performante. Qu'en penses-tu ?
Ce qui est frappant, si tu veux, c'est que Rousseau, au XVIIIe siècle, oui, décrive la chose, et immédiatement, dès qu'il parle de la civilisation. Moi, c'est ça qui me frappe, oui, parce que, évidemment, que notre actualité, c'est une actualité, hélas. Oui. Qu'on pourrait dire récurrente, oui, puisque bon, je mentionne dans le livre, je cite deux autres auteurs qui ont parlé de cet affaissement de la civilisation, au cœur même de la civilisation, qui sont Simone Weil, la philosophe, oui, avec un W, oui, et puis Walter Benjamin, oui, et eux, ils l'ont écrit en 39-40. Alors évidemment, oui, il est sûr que ce que décrit Rousseau, c'est une sorte...
Et ça l'a conduit à la désespérance totale, lui.
Benjamin, oui, Benjamin, oui, et puis ça, juste avant
son suicide. Voilà, c'est ça.
Donc, ce qui est important à mes yeux, c'est ça, c'est l'idée que Rousseau a réussi à dégager, à apercevoir, à saisir une sorte de trait constant, et qui n'est pas donc applicable simplement à notre civilisation, oui, si tant est qu'il y en ait d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, qui est comme tel un danger de la civilisation, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est dans ça, la civilisation, qui recherche pourtant à accomplir une forme de l'humanité la plus haute possible, il y a toujours dans cette volonté d'atteindre une forme de l'humain extrêmement haute, la possibilité, hélas, d'une chute bien, oui, plus, oui, bien plus lourde, bien plus, oui, grave, et qui amènera l'homme bien en dessous de ce qu'il était, évidemment je reste dans la terminologie de Rousseau, mais de ce qu'il était par nature, c'est-à-dire cet animal au fond pacifique, même si pas très intelligent. Mais il y a toujours cette série. Et ça, il le pointe d'emblée dans le contrat social.
Oui.
Oui. C'est ça la grandeur. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai le temps, si je lis le passage de Rousseau rapidement.
Ah si, si, faut le, oui, on peut le lire, bien sûr.
Je le lis rapidement, ce, oui, petit, oui, passage, vous entendrez la chose, bon, c'est une très belle langue. Donc il dit la chose suivante. « Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. » Et voilà la phrase importante. « Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands. Ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève, à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un,
oui,
homme.
Oui. »
Vous avez les deux, vous avez la grandeur de la civilisation, tout, oui, ce qu'elle apporte à l'homme, oui, et vous avez le risque des, oui, abus de tout ce que la civilisation apporte à l'homme, c'est-à-dire la civilisation, d'une certaine façon, se retournant contre elle-même, et si on peut dire, pour dire vite, s'auto-détruisant.
Oui. Alors si on aborde effectivement le deuxième volet, c'est-à-dire si on revient à Babel. En te lisant, je me suis dit, c'est pas une lecture comme ça, c'est pas, bon, j'ai eu l'occasion de te le dire au téléphone, c'est le fait qu'on ne peut pas faire une lecture comme ça. C'est une lecture travail, c'est une lecture qui s'inscrit dans un limoud. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, tu reprends les versets, tu reprends les passouks, et je dirais qu'à chaque fois, c'est une façon d'inciter le lecteur du limoud, c'est-à-dire de l'étude en commun, de travailler et de reprendre le texte, je dirais, à nouveau. On se remet à l'atelier, si je puis dire. Dans ce sens-là, j'ai envie de dire que cet ouvrage-là, cette correspondance entre Rousseau, Babel et la civilisation, j'ai envie de dire, c'est un outil de travail, c'est un outil de réflexion, et je dirais qu'on n'en fera pas le tour aujourd'hui. On va prendre simplement quelques séquences, si tu le permets. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la relation, par exemple, que tu fais au verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur fut pierre et le bitume fut pour eux mortier. Chaque mot compte et chaque mot appelle à une métaphore, et en particulier la métaphore du mortier ou de la bitume. Et là, en fait, c'est là où un texte peut correspondre à d'autres points de réflexion, c'est qu'on retrouve, au fond, Freud, dans la mesure où, en fait, il parle de la protection contre les pulsions destructives, puisqu'on sait que la brique et le mortier font le ciment de ce qui va se tenir, de ce qui va faire le solide, de ce qui va faire la civilisation, et que, malheureusement, ça risque de s'effondrer parce que, précisément, il y a des forces destructrices.
Alors, oui,
tu es d'accord avec ça.
Bien sûr, c'est le troisième verset donc, voilà. de Babel, et effectivement, c'est un verset assez étonnant. Bon,
oui.
ils se dirent l'un à l'autre, on ne sait toujours pas qui sont ces ils.
Oui. Hein,
enfin bon, on sait que c'est toute la terre, on ne sait pas plus, on le saura plus tard. C'est au verset 5 qu'on saura qui sont ceux qui désignent ce pronom au pluriel ils. Oui. Alors, ils se dirent l'un à l'autre, allons fabriquons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur fut pierre et le bitume fut pour eux mortier. Alors, très étonnant, on est dans un verset de la Torah, on est évidemment à peu près, enfin, certains d'emblée, si on aborde le texte, qu'on doit pouvoir y trouver du sens, et on a l'impression qui ressort à première lecture, c'est qu'on a ici des informations, techniques, sur le matériau utilisé pour construire cette tour, bon, tour qui effectivement ressemble aux ziggourats babyloniennes, on sait que ça existait, bon, et alors la question c'est ça, est-ce qu'on nous dit simplement, bon voilà, ils étaient dans une vallée, ils n'étaient pas dans la montagne, ils ont construit leur tour en briques au lieu de les construire en pierre. Et c'est là que la lecture devient importante, puisque précisément dans l'étude, ce qui fait l'unité de base, si tu veux, du sens, ça n'est pas la phrase, comme dans notre langue, en français, mais c'est le verset.
Bien sûr.
Et le verset, c'est effectivement un bloc, ça se donne d'abord comme un bloc, duquel il faut retirer des éclats. Et ces éclats, alors, pour les retirer, bah, il faut s'arrêter sur les mots.
Oui, c'est ça.
Il faut s'arrêter sur les mots.
C'est ça.
Alors, effectivement, on se demande, bah, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont pris de la brique plutôt que de prendre des pierres. Alors, évidemment,
Pierre, tu fais référence aussi à Even.
Bien sûr, c'est à ça que j'arrive,
voilà,
bien entendu.
Ça.
Oui. C'est-à-dire que
Even,
Pierre Brique, dans un sens très simple, voilà, dans un sens très simple, Pierre Brique, ça veut dire ils sont dans une vallée, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de roche, il n'y a pas de carrière. Bon,
oui.
Donc ils vont faire des briques. Très bien, ça c'est la première chose. Maintenant, évidemment, si on lit un peu plus loin, on a Pierre, donc à la place de la pierre. La brique tient lieu de pierre. Or, pierre en hébreu, c'est Even.
Oui.
Et Even, plusieurs maîtres, notamment Béni Lévi, voilà, décompose Even en deux mots, Av, Ben, père, fils.
Oui.
Donc, il y aurait un remez, une allusion dans le mot pierre, une allusion à la généalogie, à la descendance, au rapport du père et du fils, ou du fils et du père, comme vous voudrez.
Oui.
Or, il se trouve que on peut aussi décomposer encore plus, puisque Av, père, ça peut se décomposer en Aleph Bet, ce sont les deux lettres qui composent ce mot, donc A et B si vous voulez en français.
Oui.
Et donc, ce qui s'entend derrière la relation au père, c'est aussi la relation au sens, puisque Aleph Bet, c'est l'alphabet, c'est le B.A.B.A., comme on dit chez nous. Donc voilà, dans cette question du père. Et ce qui est frappant, c'est que précisément, les hommes en question vont substituer la brique à cette pierre. La brique, qu'est-ce que c'est? En deux mots, la brique, c'est une pierre, de fait, c'est-à-dire un matériau de construction. Matériaux de construction entièrement fabriqués et calibrés par l'homme, c'est-à-dire qu'ici, il y a la volonté exprimée, mais de façon allusive, bien entendu, il y a la volonté allusivement exprimée de ces hommes, de la génération donc, de la dispersion, comme on les appelle, de ces hommes, de ne rien devoir à personne. Ils veulent fabriquer leur tour avec un matériau qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Bon, il faut quand même de la terre pour faire la brique. Et la terre, c'est pas sans rapport avec Adam, puisque Adam mina Adama, donc on y reviendra s'il y a besoin.
En filigrane, un sentiment de toute puissance, en germe.
Il y a une forme de, on peut le dire en grec, alors là je suis un philosophe, mais il y a une sorte d'hubris incroyable des hommes de cette génération, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent à Dieu lui-même.
Voilà, exactement.
Hein, ils vont beaucoup plus loin que n'était allée la génération du déluge.
Mais là, il y a une phrase fondamentale à la fin de l'étude, là. qui dit « Les hommes quelconques ne sauraient coexister sans le ciment de la civilisation. On retrouve sous forme d'image une définition de la civilisation assez proche de celle qu'en donna Freud, c'est ce que je disais tout à l'heure, une sorte de liant dont l'effet n'est jamais que provisoire selon lui, permettant aux hommes de se protéger de leur propre pulsion destructrice. C'est le rôle protecteur de toute civilisation, celui de rempart, de fortification contre la sauvagerie extérieure comme intérieure. » Mais ça, c'est une lecture moderne qu'on fait.
Ah ben, c'est-à-dire que complètement. Tous les échos voilà. sont bienvenus. C'est-à-dire voilà. que, effectivement, les hommes quelconques, dont tu parlais très vite, oui. ben, les hommes quelconques, je les entends dans la brique. Parce que la brique étant calibrée, ça veut dire, pour construire une civilisation, pour bâtir une civilisation, comme celle de la tour et de la ville de Babel, oui. Il faut un matériau qui soit un homme quelconque, un homme standardisé. Maintenant, si on empile ces hommes quelconques, ça ne fait pas encore une construction stable. Il faut le mortier. Effectivement, au moment où le texte oui. dit cela, donc le bitume qui tient lieu de mortier, moi, ça suscite en moi un écho très simple. C'est l'écho au texte très connu de Freud qui s'appelle « Malaise dans la civilisation oui, » dans la culture, comme vous voudrez.
Oui.
Texte dans lequel, effectivement, Freud développe une sorte de description de la civilisation comme étant toutes les mesures que les hommes mettent en œuvre pour échapper, évidemment, à la menace extérieure, bien entendu, mais surtout, du oui. point de vue de Freud, à la menace intérieure, c'est-à-dire à la pulsion de mort qui se trouve en chacun de nous. Et effectivement, ce ciment qui permet aux hommes de ne pas laisser libre cours à leur sauvagerie, bah Freud constate, il écrit son livre à l'avènement du nazisme, Freud constate que ce ciment est extrêmement friable et faible.
Voilà. Évidemment. Mais il me revient en mémoire aussi ce que dit Freud à partir de la pulsion de mort. Ça aussi, je dirais que ça mérite d'y réfléchir. Un gain de plaisir d'une autre sorte, dit-il, et les énigmatiques tendances masochistes du moi. C'est quand même... C'est bien vu aussi.
Ah oui, non, c'est tout à fait frappant, voilà.
Alors, une question, parce que si on revient au retournement, et donc on peut parler de l'effondrement de la civilisation, alors qu'on croyait finalement atteindre, je dirais, à quelque chose de l'excellence, hein, si je puis dire, à un moment, et je sais combien, je dirais, le travail autour de Benny Levitt est cher, mais est-ce qu'on peut adjoindre au fait que, par rapport au constat que l'on peut faire, dans Être juif, cet ouvrage majeur de Benny Levy, où en fait, il reprend le titre à Lévinas, et où on en a déjà parlé ensemble, mais ça vaut la peine de revenir, où il dit « virement inattendu » de la malédiction en exultation. Est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que après le constat, l'échec au fond de la civilisation d'une certaine manière qui a été perçu par Benny Levy, est-ce que naturellement il arrivait précisément à cette manière de voir les choses pour entrer dans, je dirais, un voyage qui allait au-delà de la philosophie classique pour revenir à la lettre carrée?
C'est certain, là, c'est le parcours qu'il a effectué. Alors maintenant, chez lui, évidemment, le virement inattendu de la malédiction en exultation,
oui.
ça désigne ce qui se joue dans, précisément, l'être juif. Bon, c'est comme ça que Benny Levy le concentre.
C'est ça.
Alors, si on revient dans les formulations que tu as eues juste avant,
c'est pour aller
sur la question de l'effondrement de la civilisation. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a, dans la civilisation, alors on va dire pour faire biblique, dans la langue unique, parce que c'est ça que ça désigne, cette Safa Erat, cette langue une,
bon,
traduit par langue unique, parce qu'il y a l'unité et l'unicité, bon voilà. Donc cette langue une, elle s'effondre, c'est-à-dire qu'après Babel, précisément c'est en cela que consiste ce qu'on appelle d'habitude la confusion de la langue ou des langues, c'est-à-dire que tous les hommes de la génération de Babel se comprenaient, quelle que fût leur origine, puisqu'il y avait déjà des langues avant la tour de Babel, hein, il y avait déjà plusieurs langues chez les fils de Noé. Mais il y avait une sorte de métalangue, ou je ne sais pas comment dire ça, une langue qui circulait entre les langues et qui permettait de se comprendre, même si on n'était pas de la même communauté linguistique. Et, dit Ibn Ezra, il y avait dans cette langue une, donc la langue sainte, dit Rashi, le Lashon HaKodesh, la langue de sainteté, il y avait aussi la possibilité que le plus ignorant comprenne le plus érudit. Donc c'était une langue qui permettait une forme d'universalité extra-sociale, différence de culture, et extra-nationale, différence d'origine. Bon, cette langue s'est perdue. C'est ça la confusion. C'est que finalement, les hommes sont revenus aux 70 langues qui existait déjà, oui. C'est Risconi d'Isla, il y avait déjà 70 langues au oui. moment de Babel, mais il y avait cette langue qui circulait entre les 70. Et puis, la punition, entre guillemets, la sanction de l'épisode de Babel, c'est que cette langue qui circule entre les 70 langues disparaît, et les hommes qui se comprenaient tous, finalement, sont chacun ramenés à leur propre langue, c'est-à-dire à leur propre vision du monde. Et du coup, c'est le moment de la dispersion oui. la plus grande de l'humanité. Alors, il oui. y a un effondrement, mais parce que moi, je suis pas du tout un décliniste, je ne crois pas que ce soit cet effondrement qui doive avoir le dernier mot. C'est-à-dire que si je le dis dans les termes de la langue unique, je crois que ce qui se donnait dans cette langue unique au moment de Babel et qui a été perdu, il incombe aux hommes d'aujourd'hui, quel que soit cet aujourd'hui par ailleurs, il incombe aux hommes d'aujourd'hui de travailler pour en retrouver les échos, les éclats encore une fois, oui. mais les échos dans le monde tumultueux dans lequel nous sommes.
Oui, oui. Et mais du reste, je voudrais citer, parce que c'est la dernière phrase de l'ouvrage, elle est magnifique. Du fond de cette obscurité, nous avons la tâche de rallumer la lumière. Alors là, je trouve qu'il y a une petite pointe, allez, j'ose le dire, un parfum racidique. Je vais t'y rire. Petit parfum racidique.
Il pourrait, mais en fait, ce thème de
les allumeurs de réverbères.
Ouais, ce thème de faire monter la lumière, c'est déjà un pasouk sur Aaron. Donc, Alotecha, lorsque tu feras monter la lumière. Voilà. Et on a tout un tas de psukim dans la Torah qui parlent de cela et tout un tas de commentaires.
Oui. Alors, par contre, dans la conclusion, je crois que c'est très clair, parce que, en fait, d'abord, c'est une conclusion en trois pages. Après cette étude intense, tu dis « La civilisation, rendue possible par la langue parfaite ou accomplie, tant du point de vue de l'universalité que de celui de l'intensité, oublie ensuite cette seconde perfection, l'intensité, au profit de la première, l'universalité, érigée en absolu le projet. » Alors, entre parenthèses, « L'humanité unie possédant une langue unique se fige en institution, la tour, laquelle trahit ce qu'elle prétendait réaliser. » C'est une vraie réflexion, je dirais, moderne. C'est une vraie réflexion moderne.
C'est une réflexion qu'on peut qualifier de oui. moderne, pourquoi pas, mais je pense que c'est une réflexion qui s'ancre dans la lecture de la Torah, en vérité. Parce que,
c'est ça.
Parce que, bon, évidemment, ça nécessite une sorte de traduction, de le dire comme ça.
La Torah qu'on lit à Yom, aujourd'hui. Voilà. Hein.
Parce que la tour de Babel, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire, la tour de Babel, c'est l'institution. Bon, pour le dire simplement, un peu rapidement, je voudrais regarder le détail, mais la tour de Babel, c'est l'institution. L'institution, c'est quoi? L'institution, c'est la sclérose de ce qui est vivant. Et on le retrouve à plusieurs reprises, si je peux me permettre, mais le veau d'or, c'est aussi quelque chose de cet ordre-là.
C'est ça. Hein,
Moshe est parti, il y a un malentendu sur la date de son retour, il ne revient pas, et les Bnei Israël ont besoin, absolument besoin, de quelque chose à se mettre sous la main. Donc il leur faut, voilà nos dieux qui nous ont fait sortir d'Égypte, il leur faut quelque chose de ferme. Voilà. Mais donc c'est le veau, c'est l'institution aussi. Et que fait Moshe quand il rentre? Il va réduire ce veau en poudre, voilà, en poussière. Parce que précisément dans la poussière, il y a quelque chose. La poussière, là, c'est la métaphore, bien entendu. Mais dans cette poussière, il y a une multiplicité, il y a quelque chose de vivant. Alors que dans le veau qui a été formé, il y a quelque chose de mort. Ouais. Je crois que c'est la même chose avec la tour de Babel. C'est qu'effectivement, il y a à l'origine de la construction de la tour de Babel quelque chose qui est tout à fait noble, cette volonté d'une unification de l'humain, et qui est reconnue comme telle, disent les commentateurs, puisqu'on se pose la question de savoir pourquoi ces hommes qui finalement se sont révoltés contre Dieu de façon beaucoup plus directe que les hommes de la génération du déluge ont été punis de façon beaucoup moins grave. Parce que la génération du déluge, c'est l'extermination quasi totale de l'humanité. Alors que la tour de Babel, c'est la dispersion aux quatre coins de la Terre. Bon, alors, et la réponse que donnent les maîtres, c'est que précisément, c'est parce qu'il y avait dans le projet...
Une intentionnalité.
Il y avait une intention, et une intentionnalité, et une intention qui était bonne, mais qui s'est retournée sur elle-même. Et c'est là, c'est pour ça qu'il faudra aussi
On pourrait faire la comparaison aussi avec des idéologies, mais enfin, je referme la parenthèse.
L'idéologie, c'est l'institution dans le milieu de la pensée.
Oui.
Il y a des gens qui pensent, et puis il y a des gens qui font des idéologies.
C'est
voilà.
ça, voilà, exactement.
Chose de figé.
Alors, des questions qui m'intéressent personnellement, c'est que bon, alors... C'est un travail, encore une fois, c'est un travail d'atelier, c'est un travail d'étude. Comment tu l'as abordé ? Tu l'as abordé, au fond, en solitaire. Et on dit que dans le Limoud, en réalité, bon, bah, le solitaire, c'est pas très bien vu. Et où est-ce que, en réalité, à travers l'étude des versets, des passouks, tu t'es entouré de compagnons pour essayer précisément de casser le texte de manière à le décrypter, à le faire rendre, à le rendre encore plus vivant, si je puis dire.
Alors, la chose, enfin, il y a de multiples ressources dedans.
Voilà.
Alors, il se trouve que, bon, j'étudie depuis plusieurs années. J'étudie la paracha avec un groupe d'amis.
C'est ça.
Voilà. On fait la lecture, la péricope, comme
c'est
on dit.
C'est ça, oui. Chaque semaine,
voilà. Donc, je suis déjà passé plusieurs fois sur ce passage, bien entendu. J'étudie, par ailleurs, dans d'autres groupes, dans lesquels nous sommes aussi arrêtés sur ces passages-là. Donc, ce sont des passages que j'ai déjà lus à plusieurs, dans une Rabura ou dans une Ravruta, selon les cas. Mais après, pour le livre lui-même...
Sans jugement, hein.
Non, bien sûr.
Combien même tu l'aurais fait, je dirais, en solitaire, ça...
Non, ce qui est certain, c'est que pour écrire le livre, j'ai dû reprendre...
Voilà.
À partir de ce que j'avais fait dans les différents groupes d'études auxquels j'appartiens, j'ai dû reprendre moi la chose. Et effectivement, je lui ai donné, à mon étude des versets de la Tour de Babel, je lui ai donné un tour qui, pour le coup, est mien, nécessairement. Je pense, c'est un des principes, si on peut dire ça comme ça, bon, sans que ce soit trop sclérosé non plus. Enfin, c'est une des idées que j'ai relativement à la lecture. Je crois que lire vraiment un texte, ça... veut dire au bout du compte, et on y arrive très rarement en vérité, mais ça veut dire au bout du compte le lire comme personne d'autre n'aurait pu le lire. Alors pour ça, la confrontation avec les autres est absolument essentielle, parce qu'on sort de son habitus, comme tu disais tout à l'heure, de ses habitudes de lecture, de ses raccourcis, de tout ce qu'on croit savoir. Donc là, la confrontation est évidemment un moment absolument essentiel. Mais malgré tout, une fois qu'il y a eu toute cette confrontation, il n'est pas mauvais d'essayer... pour soi ou face à d'autres, pourquoi pas, mais de reprendre la chose dans une forme d'unité. Alors évidemment, je prétends pas du tout dans la moitié du livre avoir épuisé ce que disent ces versets. Je pose d'ailleurs beaucoup de questions auxquelles je ne réponds pas. Enfin, j'essaie de répondre aux plus importantes.
Le sent très bien,
un livre d'études.
À travers la lecture, on sent très très bien. Il y a aucune formule dogmatique. Hein. Je dirais, tu ouvres des pistes, tu questionnes. Et en même temps, je t'écoute et je suis ravi d'entendre que effectivement cette lecture que tu proposes, c'est une lecture qui participe d'une aventure existentielle d'une certaine manière, qui en fait conduit à une véritable liberté. Or, est-ce que ça demande pas une initiation ? Parce que à un moment, je crois que faisons-nous un maître. Mais on le dit aussi dans notre tradition. Faisons-nous un nom. Et puis, par association d'idées, j'ai envie de le dire en t'écoutant, faisons-nous un maître. Fais-toi un maître. C'est pas rien cette affaire, parce que, en réalité, le décryptage, cette lecture que tu proposes, est-ce qu'elle ne demande pas une initiation ?
Non. Ce qui est certain, c'est que la pensée ne vient que sous l'effet, alors je vais le dire d'un mot en jouant un peu sur le mot, mais que sous l'effet d'une provocation.
C'est-à-dire,
la pensée ne vient que quand on est confronté à quelqu'un, en général quelqu'un, quelque chose, parfois ça peut arriver, qui vient bousculer le rapport qu'on croyait fixe et figé aux choses. Alors, dans mon cas, effectivement, c'est un maître, c'est sûr, c'est Benny Lévy, c'est certain. Mais on a donc il faut effectivement en tout cas en passant par une relation de maître à élève on a cette chance, cette occasion qui est donnée d'arriver dans la pensée, mais il faut aussi acquérir un compagnon d'études.
Mais alors tu vois, cette question elle m'en amène une autre, c'est que en réalité ce que tu préconises là, c'est un rapport avec l'oralité. On pourrait tout aussi bien penser que avec le livre on puisse aussi avoir une sorte d'ébranlement. Mais ne crois-tu pas que l'oralité prime précisément quand on est, je dirais, dans le sillage du maître où on entend une parole vivante ?
Mais je crois que précisément, il faut sortir de l'idée.
C'est ça.
Qui est une idée qui a l'air évidente, effectivement. Il faut sortir de l'idée qu'il y aurait donc. Bien sûr qu'il y a deux domaines, le domaine de l'écrit, le domaine de l'oral. Mais précisément, lire vraiment, c'est ramener dans un texte. A priori figé, un peu comme notre tour, un peu comme notre institution, c'est ramener dedans une dose de vie. Et ça, c'est de l'oralité. C'est-à-dire que je crois que le rapport qu'on doit avoir au texte, c'est un rapport d'étude, effectivement. C'est-à-dire que c'est pas un rapport où on suit des lignes pour comprendre quelque chose et pour en faire une fiche. Bon, on peut faire ça quand on passe des examens, bien entendu. Mais le vrai travail du lecteur, c'est toujours de faire en sorte que le texte acquiert une voix, V-O-I-X, une voix, c'est-à-dire qu'il se mette à parler, que le texte se mette à parler, et que ce texte se mette à parler d'une façon absolument singulière.
Et on a un ami commun, hein, qu'on aime beaucoup, Marc-Yann Lawaknin, qui dit « Quand je lis un texte, je me lis ».
Bon, alors là, moi j'irais un petit pas de côté, parce que, parce que précisément, je pense que le « je me lis » envoie un peu trop du côté de la réflexivité.
Oui.
Or, ce que je pense, qu'il en serait d'accord avec moi, je pense, c'est que précisément, dans la lecture, on est enseigné. C'est-à-dire, être enseigné, c'est pas simplement, comme le pensaient Platon et Socrate, la réminiscence, c'est-à-dire retrouver en soi ce que l'on savait déjà, même si on l'avait oublié. Mais je crois que dans la révélation, c'est Lévinas qui faisait une opposition très forte entre la réminiscence, l'anamnèse, et puis la révélation, c'est que la révélation amène quelque chose de l'extérieur, amène quelque chose que nous ne connaissions pas. Donc, d'une certaine façon, dans la lecture, le texte me lit.
Oui, mais alors pour ça, effectivement, si on reprend Lévinas, hein, bon, on travaille, moi plus modestement que toi, mais en réalité, il faut de l'autre. Il faut de l'autre, précisément, pour arriver, je dirais, à faire en sorte que la lumière, comme dit Lévinas, eh bien, ne soit pas quelque chose déjà de connu, déjà de familier. Il faut l'arrivée de l'autre.
L'autre ou l'altérité, c'est le mot de Lévinas, bien entendu. Moi, je vais lui préférer le mot d'étrangeté ou
d'étrangeté.
Voilà, d'étrangeté, c'est-à-dire
pour
penser, il faut être confronté à quelque chose d'étrange.
C'est ça.
Et pour lire, c'est la même chose. Encore une fois, si tout est familier, il y a rien qui se passe.
C'est ça.
Il y a rien qui se passe. On est confirmé dans ce qu'on est, et je crois qu'il faut être confronté. Pour penser, il faut être confronté à cette étrangeté.
Oui.
C'est-à-dire, je crois que la pensée, ça ne vient pas de soi d'une certaine façon, même si, bien sûr, chacun pense pour soi.
Oui.
Mais ça ne vient pas de soi, c'est toujours suscité par des textes. Et c'est pour ça que moi, même le geste philosophique, pour moi, prend sa racine, prend sa source dans la lecture des textes, et pas dans la production de concepts.
Absolument, je suis d'accord. Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que là, après ce que tu viens de dire, c'est que pour trouver cet ébranlement dont on parle, ébranlement existentiel, il faut aussi, on n'est pas que dans l'intellectualité, il faut le din et il faut, je dirais, le recède. Il faut cette unité-là, c'est-à-dire trouver aussi le chemin du cœur, d'une certaine manière. Sinon, ça ne peut pas fonctionner.
Alors, ce qui est certain, je crois, c'est qu'il n'y a pas de, séparation radicale.
Voilà.
Bien sûr qu'il y a une séparation, mais il n'y a pas de séparation radicale entre ce qu'on appelle d'habitude l'intellect ce qu'on appelle la sensibilité.
C'est ça.
Je crois que les grandes formes d'intelligence sont toujours des intelligences sensibles.
Absolument.
C'est ce que j'avais essayé de développer dans mon livre sur le tact. Mais
oui,
c'est cette idée
on en reparlera.
C'est cette idée qu'effectivement, il faut sortir des catégories trop rigides qui ont évidemment une vérité, mais cette vérité ne doit pas être admise comme une évidence. Il faut la retrouver si on en est capable.
Donc
je pense que c'est pas mal, dans un premier temps, d'associer les deux.
Oui. Écoute, j'ai vraiment été ravi de notre entretien. Je voudrais rappeler que tu as déjà une œuvre importante. Hein. Il y a aussi les cahiers de l'Institut des études lévinassiennes que tu diriges. Je voudrais peut-être recommander cette revue. Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut se la procurer?
Le plus simple pour se procurer la revue, c'est d'aller sur Internet, sur le site de l'Institut d'études lévinassiennes. C'est www.levinas.fr.
En tous les cas, cher Gélanus, c'est vraiment un grand, grand plaisir d'être en ta compagnie. Et je voudrais vraiment citer cet excellent livre. Alors, encore une fois, c'est un objet d'étude, mais vraiment très riche, très, très riche. Une langue unique, Rousseau, Babel et la civilisation, publié chez Eliot. Il faut que tu me fasses une promesse. Je te regarde bien. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta connaissance. Pour faire en sorte que le message autour de la mémoire, eh bien, en passe aussi par un vecteur qui est celui de la réflexion. C'est très important pour nous et nos auditeurs. Merci.
Merci.
Mémoire et vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Mémoire et vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.
Mémoire et vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de donner la parole à mon invité ce soir, Gélanus, qui vient pour un beau livre, un livre intéressant, Une langue unique, Rousseau, Babel et la civilisation, publié aux éditions Eliot. je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors tout d'abord, au profit des œuvres de la Yalet France, se tiendra donc mardi 5 novembre à 20h30, une projection en avant-première de La plus précieuse des marchandises, un film de Michel Hazanavicius, et ce, au cinéma Le Balzac, pour réserver, donc toujours au profit des œuvres de Yad La Yalet France, 06 68 29 29 41. Une date à retenir également, celle du dimanche 10 novembre à 14h, au mémorial de la Shoah, puisque sera projeté en avant-première Les combats méconnus de Simone Veil, de Dominique Missica et Caroline Dussin, et ce, donc, à l'auditorium, en présence des réalisatrices. Et cette projection, suivie d'une table ronde, sera animée par Léa Weinstein. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je reçois ce soir Gilles Anus, docteur en philosophie et sémiologie du texte et de l'image. Il dirige, faut-il le rappeler, les cahiers d'études lévinassiennes, et il est l'auteur de nombreux essais, dont, alors, sans chronologie, lecture de Lévinas, pensée à deux, relief de la mémoire, théorie des trous de mémoire, Benny Lévy, l'éclat de la pensée, éloge du tact. Et ce soir, Gilles Anus nous vient, je le rappelais à l'instant, avec un ouvrage publié aux éditions Elliott, Une langue unique, Rousseau, Babel et la civilisation. Titre étrange, mais qui s'inscrit dans notre émission Mémoire et Vigilance, car cet ouvrage relève de le défi de décrypter la notion de civilisation qui désigne le processus par lequel l'humain actualise son humanité, processus linguistique, technique, social, qui ne va pas sans risque et menace constamment de s'inverser. Là où les hommes devaient s'élever, ou devraient s'élever, il arrive souvent qu'il s'effondre, et cet effondrement est synonyme pour Gilles Anus de retournement. Ainsi, son constat n'est que le reflet de l'histoire du temps présent, où l'on assiste non sans effroi depuis tous ces derniers mois, dans le prolongement de ce qui s'est passé donc le 7 octobre, ce massacre barbare, à une flambée d'antisémitisme et à une montée de la violence et de l'intolérance incompatibles avec l'idéal démocratique. Alors, dans son étude unique et originale, Gilles Anus interroge l'œuvre de Rousseau et le texte consacré à la tour de Babel au sein de la Torah sous la forme d'une lecture parallèle qui, malgré leurs différences notables, font écho aujourd'hui à ce qui se trame dans notre monde contemporain. Il y a en effet un paradoxe criant. On n'a jamais atteint un tel niveau de perfectionnement technologique et dans le même temps, on constate un affaissement des valeurs qui construisent l'humanité, à preuve, encore une fois, le surgissement de la violence partout et le prurit antisémite qui participe d'une régression absolue de l'histoire, surtout, encore une fois, depuis le pogrom innommable du 7 octobre. Alors, en philosophe, Gilles Anus, par des chemins détournés, nous donne à penser le mystère de l'humain, son élévation, mais aussi sa descente, quand l'acte de penser et surtout d'interpréter la parole trait d'union acte, n'était pas au rendez-vous de l'étude, autrement dit, quand l'être est plein ou était plein de lui-même. Et je me tourne vers Gilles Anus, nous nous connaissons bien, puisque presque à chaque parution, Gilles Anus vient dans cette émission Mémoire et Vigilance. Ma question, elle est simple. Comment a germé chez toi le rapprochement de ces deux entités textuelles? Et ma question, elle a une sous-question, est-ce au fond l'influence de la Gezerah Shavah, autrement dit, ce qui se fait dans le Limoud?
Alors, c'est toute la question, et c'est d'abord un mystère.
Voilà.
C'est-à-dire que si je raconte les conditions dans lesquelles j'ai travaillé à ce livre, elles sont les suivantes. Je devais préparer une conférence pour l'Institut d'études lévinassiennes sur le thème de la civilisation. Alors je me suis dit, en philosophe que je suis, oui. Je me suis dit, voilà, je vais aborder la question à partir de Rousseau, parce que voilà, j'ai une lecture régulière depuis assez longtemps de Rousseau, et je sais que la question de la civilisation, bien que le mot n'apparaisse pas du tout chez Rousseau, mais qui parle Rousseau d'un devenir civil de l'homme. Donc, dans le devenir civil, j'entends ce processus par lequel les hommes, qui, selon lui, étaient d'abord des animaux stupides et bornés, sont devenus des êtres intelligents et des hommes, pour le citer. Donc, j'interroge cette notion de civilisation à partir de Rousseau. Je relis un certain nombre de textes, et constamment, dans mon esprit, alors là, c'est totalement singulier et personnel, mais totalement, dans mon esprit, constamment, j'avais en écho, comme en écho des textes de Rousseau, les versets du chapitre 11, donc de la Genèse, qui racontent, qui relatent, qui narrent l'épisode bien connu, croit-on, de la tour de Babel. Et ça ne m'a pas quitté. Alors, de deux choses l'une, soit c'était dû à mon idiosyncrasie, à ce que je suis, disons, à ma pure personnalité ou à ma pure singularité, et donc ça n'avait pas grand intérêt pour les autres, évidemment. Soit c'est autre chose qui se jouait là. Alors, vous avez parlé ou tu as parlé de Xerashava, c'est-à-dire d'un rapprochement inattendu. C'est un mode de commentaire dans le Talmud. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, il y a quelque chose de structurellement comparable. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans mon travail sur Rousseau, des échos constants de Babel. Et je me suis dit, si ces échos sont si persistants, et que, à première vue, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'unité thématique absolument explicite, disons, entre le passage biblique dont on parle et puis les textes de Rousseau. Rousseau mentionne la tour de Babel, mais vraiment au détour d'une phrase, sans en faire grand-chose. Et je me suis dit, donc, si ces échos sont si persistants, alors peut-être que ça vaut le coup d'essayer de développer la lecture de ces deux textes, donc le texte de Rousseau, ou les textes de Rousseau, mais enfin, en partant d'un passage précis, et puis les neuf versets qui racontent l'histoire de la tour de Babel. Peut-être que ça vaut le coup de les développer, et comme je ne sais pas pourquoi ils se répondent, je vais développer ça sous la forme d'une sorte de contrepoint, c'est-à-dire voilà, deux parties dans le livre, une première partie dans laquelle je développe une lecture de Rousseau, rapide, bien entendu, sur la question de la civilisation, et ça expliquera le titre quand même aux auditeurs, de son rapport à la langue et au langage, bien sûr.
Essentiel.
Voilà, essentiel. Et évidemment, la question de la langue, c'est le titre du livre. Une langue unique est tout à fait déterminante dans l'épisode de Babel.
Voilà. Alors, en plus, le livre est très bien construit, je dirais même sur le plan architectural, puisqu'il se divise exactement en deux. Première partie, Rousseau, et deuxième partie, Babel. Alors, avec une introduction, hein, quand tu parles de Babel, tu dis les quelques versets qui relatent l'épisode de la tour de Babel appartiennent à la culture commune. C'est vrai que c'est extrêmement connu, il faut le dire, mais chacun doit les connaître quand très peu les lisent, on les lit très peu. Et le récit qu'ils font est évidemment d'autant plus méconnu qu'on se sent dispensé de le lire. Il faut pourtant revenir au texte. Et là, au cours de notre entretien, j'ai senti et j'ai perçu ton influence avec Benny Lévy pour justement nous introduire à la lecture des textes, une lecture différente de ce qu'on fait habituellement. On en reparlera tout à l'heure. Moi, je reviens, si tu veux bien, je reviens tout simplement au sommaire, parce que là encore, c'est extrêmement bien fait. D'abord, on commence par la notion de civilisation. Et je te cite, hein, tu dis, dans le contrat social, et tu fais référence donc à ce que dit Rousseau, la civilisation comme le geste par lequel les hommes s'extraient de leur animalité naturelle pour atteindre l'état civil. Au fond, il n'emploie pas encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, le terme de civilisation, mais c'est en germe à travers, précisément, l'état civil. Et ensuite, tu vas décliner, avec les formes du langage, le cri, on va en parler, musique et poésie, Babil, Genèse du monde, la technique, et je dirais que le point d'orgue, c'est ça qui m'a passionné dans cette lecture, c'est effectivement le retournement qui arrive comme une sorte de conclusion et qui amène l'autre versant, c'est-à-dire celui de Babel.
Alors, je dis un mot, puisque tu parlais de l'architecture ou de la structure du livre, quand même sur la collection dans laquelle c'est publié, parce que c'est les éditions Elliott qui nous ont fait l'amitié d'accueillir une nouvelle collection qui s'appelle L'Éclectique, que je dirige avec d'autres amis, le peintre Christian Bonnefoy, Guy Masso, Dina Germanos-Besson, Pascal Baquet, le peintre.
Le peintre, pas
le poète, pas Yves. Christian. Donc on dirige ça collectivement et c'est une petite collection qui va publier environ 4 livres par an et des livres, comme son nom l'indique, éclectiques, c'est-à-dire de la philosophie, de la poésie, des livres d'art et des essais de toute nature et peut-être y compris sur la musique et des textes littéraires. Donc une collection dont on espère qu'elle permettra de publier, si vous voulez, des textes courts, denses et effectivement bien structurés si possible. Ça c'était pour la collection. Alors maintenant, pour revenir à la question oui. de la civilisation et de Rousseau. Ce qui est frappant, c'est que d'emblée, Rousseau, lorsqu'il présente la civilisation, alors le texte sur lequel je m'appuie d'abord dans le livre, c'est un texte tiré du Contrat social, tu l'as dit.
Oui.
Dès qu'il présente la civilisation, c'est-à-dire encore une fois le devenir civil de l'homme, la sortie de l'état de nature dans les termes de Rousseau, il en mentionne de façon très discrète, mais quand on lit de façon attentive, et c'est effectivement ici que peut-être se ressent l'influence dont tu as parlé de Benny Lévy.
Oui, on va en parler.
C'est qu'effectivement, j'ai appris avec Benny Lévy à lire les textes, c'est-à-dire à m'y installer le plus possible, et puis à essayer de les arpenter, voire de les labourer dans tous les sens. Alors on a
et de dépasser l'habitus de la lecture.
De dépasser ce qu'on retient habituellement de la lecture. C'est un point qui m'importe beaucoup. Si on a le temps, je lirai peut-être un petit extrait de Rousseau pour faire entendre aux auditeurs ce dont il s'agit, la façon dont Rousseau suggère le retournement qui viendra à la fin de ma première partie, bien entendu, comme tu l'as rappelé.
Oui.
Un mot encore sur Babel, puisqu'on parlait de la lecture.
Oui.
Voilà ce que je dis effectivement dans l'introduction et ce que je reprends dans ma lecture de Babel, c'est la chose suivante, c'est que c'est un texte qui appartient à ce qu'on pourrait appeler la culture générale de l'humanité, quelque chose comme ça. Voilà, en gros, tout le monde a une vague idée de ce que décrit cet épisode de la Tour de Babel. Et comme c'est toujours le cas pour les textes qu'on appellera classiques, en fait, c'est un texte qu'on ne lit plus parce qu'on pense savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est le drame de tous les grands textes classiques. Ce sont des textes magnifiques en général, mais qu'on ne lit pas parce qu'on sait déjà par avance ce qui s'y trouve.
Oui, ils sont ossifiés d'une certaine manière.
Ils sont totalement ossifiés. Et l'ossification, c'est un des grands problèmes précisément de Babel, c'est la construction de cette tour.
Mais c'est pour ça que je le dis.
Or, effectivement, je crois qu'on gagne toujours à revenir au texte, c'est-à-dire à les reprendre, à les relire. Alors, simplement, ici, la simplicité ne tend pas à la naïveté, mais simplement, c'est-à-dire en se penchant à nouveau sur la texture même des textes, sur leur matérialité, sur la façon dont ils sont écrits précisément, parce que c'est flagrant pour l'épisode de Babel. Si on lit les 9 versets qui racontent l'épisode de la Tour de Babel, avec des yeux neufs, en fait, on n'y comprend pas grand-chose, à première lecture. De qui parle-t-on? Qu'est-ce qui se passe? C'est assez incompréhensible. Et donc, je suis parti de cet étonnement, suscité par la relecture de ces versets qui ont l'air d'être connus de tous, pour essayer de montrer qu'il faut, il faut y aller patiemment, il faut y aller doucement, il faut poser tout un tas de questions au texte pour espérer pouvoir le comprendre.
Oui. Alors j'en profite quand même, au moment où tu parles, c'est de prendre en main cet ouvrage, Benny Lévy, l'éclat de la pensée, et Dieu sait si Benny Lévy a compté pour toi, et à travers ce que tu dis à l'instant, faire éclater le mot, faire éclater la phrase, faire éclater, je dirais, le texte, c'est aussi faire un éclat de la pensée qui permet, grâce à l'interprétation, évidemment, je dirais, d'acquérir une véritable liberté. C'est ça, je dirais, ton champ depuis longtemps à travers tes textes.
Bah absolument. C'est-à-dire que, pour continuer ce qu'on disait juste avant, je pense qu'il y a dans la pratique ordinaire de la lecture une certaine manière de se laisser porter par la phrase qui fait qu'on, finalement, on n'entend plus ce qui se dit dans le texte. C'est-à-dire qu'on a une lecture, qui peut être tout à fait adéquate pour certaines lectures utilitaires ou ce genre de choses, mais on a une lecture qui se laisse emporter par le texte et on oublie de s'arrêter sur les aspérités. Il y a toujours des aspérités dans un texte.
Et si tu permets, on peut faire la correspondance aussi avec ce qui se dit, je dirais, dans le langage ordinaire. C'est-à-dire que quand on voit Merleau-Ponty qui distingue entre la parole parlante et la parole parlée, il y a, je dirais, deux versants où, quand on est dans la parole parlée, on est dans une récitation. Là, on peut faire cette correspondance avec un texte qui, si jamais il se lit au sens, je dirais, le plus superficiel du terme, parce que c'est l'habitus, on passe à côté de la substance.
Et c'est-à-dire on rate la pensée.
C'est-à-dire
qu'on rate le fait que les textes, quels qu'ils soient, pour l'instant, quels qu'ils soient, alors évidemment, il y a des textes qui s'y prêtent davantage, bien entendu, mais enfin, les textes quels qu'ils soient, pour moi ce sera donc les textes philosophiques et puis les textes juifs, les textes quels qu'ils soient donc sont une incitation à la pensée. Et pas du tout quelque chose qui viendrait nous conforter dans ce que nous savons déjà. J'ai coutume de dire à mes élèves qu'en gros, étudier des textes qu'on comprend parfaitement, ça n'a aucun intérêt. Parce que la seule chose qui soit importante dans un texte, c'est pas qu'il vienne conforter ce qu'on pensait déjà. Non, on n'a pas besoin de lui, on le pensait. mais c'est que le texte vient de nous bousculer, nous déranger,
nous déstabiliser,
et c'est là que se produit cet éclat de la pensée.
Alors si tu veux bien, revenons un petit peu au langage, parce que en réalité, Rousseau, qui n'est pas, je dirais, quelqu'un qui est versé dans l'anthropologie véritablement, mais il nous donne une piste qui est quand même intéressante, c'est qu'avant le langage, il y a chez l'enfant quelque chose qui est de l'ordre de l'archaïque, de l'ordre du son, de l'ordre du chant. Et en fait, progressivement, on va atteindre, je dirais, une humanité ou avec un langage plus policé. Je crois que là aussi, tu fais cette correspondance avec Babel, d'une certaine manière.
Bah, tout à fait. Alors, Rousseau n'était pas très versé, dis-tu, en anthropologie. Oui. Enfin, c'est quand même un des fondateurs de la chose, même s'il ne l'a pas explicitement fondé.
Je veux dire
que Lévi-Strauss s'y référera quand il voudra créer la chose. Bon, voilà. Donc, Rousseau joue un rôle absolument décisif là-dedans. Effectivement, Rousseau s'interroge donc sur le lien entre la civilisation et le langage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un langage est apparu, devait apparaître? Comment est-ce qu'on peut concevoir, bien entendu, personne n'y était, donc comment est-ce qu'on peut concevoir la chose, comment est-ce qu'on peut la penser? Et effectivement, donc il s'interroge sur ce qu'il appelle, lui, Rousseau, parce que c'est sa terminologie, c'est son langage, ce qu'il appelle le langage naturel ou la langue naturelle.
Universelle.
Qui aurait été universelle, alors il va la qualifier d'universelle. Et il s'interroge sur cette langue naturelle, et évidemment, la difficulté qu'on a quand on s'interroge sur la langue naturelle, ou sur quoi que ce soit de naturel, c'est que ce qu'on a sous les yeux, si je puis dire, donc au XVIIIe siècle, à l'époque de Rousseau, ce qu'on a sous les yeux, ce sont des langues qui ne sont pas cette langue naturelle, qui sont des langues historiques, qui sont des langues diverses, qui sont des langues qui ont tout un devenir, qui se sont transformées au cours des temps. Donc, comment est-ce qu'on remonte des langues telles qu'elles existent à cette langue supposée naturelle? C'est une question constante chez Rousseau. Donc, Rousseau s'y prend de la façon suivante. À chaque fois qu'il veut retrouver la nature sous les choses transformées par la vie sociale, il va prendre des exemples, ou des figures, qui sont des figures, à ses yeux, les plus proches d'une vie naturelle, ou en tout cas plus proches que nous d'une vie naturelle. Ces figures, elles sont trois. Vous avez d'abord, ce qu'on appelait à l'époque, avec tous les guillemets du monde, le sauvage, c'est-à-dire des peuples qui vivraient plus proches de la nature que les Occidentaux du XVIIIe siècle. Vous avez l'enfant, puisque l'enfant est moins formé encore que l'adulte, et donc moins déformé, si l'on peut dire, sa nature est moins déformée. Et puis, vous avez troisième figure de la naturalité pour Rousseau, lui-même.
C'est
ce qu'il dit au début des Confessions, c'est-à-dire qu'il pense que sous l'homme qu'il est, évidemment un homme du XVIIIe siècle, quelque chose de l'homme naturel est resté. Alors maintenant, il applique la chose à la langue, et il va penser cette langue naturelle et ou universelle de trois façons différentes dans différents ouvrages. Donc le premier, je fais vite, mais le premier, c'est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et là, Rousseau dit que le premier langage, c'est le cri. C'est le cri. Alors le cri, évidemment, si on cherche à penser comment le langage a pu se développer à partir du cri, on est un peu arrêté assez rapidement, puisque, comme chacun sait, le cri, nous ne le proférons, nous ne le prononçons, nous ne le crions que dans des circonstances extrêmes. De plaisir ou de déplaisir, mais voilà, frayeur, etc.
Il nous met sur la piste, il y a un cri archaïque.
C'est l'origine, au premier sens, archaïque du langage. Alors le cri, ensuite il y a eu des modulations, et puis le langage aurait dérivé par modulation d'un cri primordial précisément, quelque chose comme ça. Ça c'est la première forme. Il y a une deuxième forme de langage, et ça il le décrit dans son essai sur l'origine des langues, il dit en fait le langage a d'abord été du chant, Et la langue a d'abord été poétique avant d'être prosaïque, avant d'être en prose. C'est-à-dire que les hommes ont d'abord chanté, les hommes ont d'abord exprimé leur passion, dit-il. Parce que c'est un point très important chez Rousseau. Rousseau dit que pour exprimer les besoins, il n'y avait pas besoin d'un langage. Il suffit de quelques gestes. Vous voulez montrer que vous avez faim, vous frottez le ventre, tout le monde comprendra. Ou vous mettez les mains dans la bouche, tout le monde comprendra. Ce que dit Rousseau, c'est que par contre, les passions, c'est-à-dire des sentiments beaucoup plus complexes, eux produisent les sons et le langage. Donc, Ce deuxième
il faudrait être capable de retrouver aussi après, dans le langage poétique. On va marquer, si tu permets, une petite pause dans l'émission Mémoire et Vigilance.
Radio Shalom, la radio qui vous écoute.
La radio qui vous écoute.
Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à Vendruna, je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descente lorsque t'embrasses s'égare. Je ne ferai point d'enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Tu ne m'appartiens pas. Quand tu me mords ou ça dérange et tu m'attaches les bras. Quand je fais sautiller sa frange et Christ se tire dans les graves. Revoyeur en redemande, moi je ne veux que Una. Les plus belles des plus belles jambes et de la place pour toi. Tu ne m'appartiens pas.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Shalom, première sur l'info.
Première sur l'info.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.
what keeps the planet spinning. The force from the beginning.